parole du jour avec le Père Willem.
L'enfer sur terre. De toutes les destructions, ravages et souffrances de la Seconde Guerre mondiale, l'inhumanité toucha le fond avec le massacre des Juifs européens. Les feux des crématoires, des camps de la mort, furent presque littéralement la manifestation physique de l'enfer sur terre. Au cours de l'automne 1941, les chefs nazis locaux, mandatés par Berlin, engagèrent la tuerie des Juifs dans les diverses régions d'Europe centrale. Sous l'inspiration d'Hitler, il s'agissait d'apporter la plus radicale des solutions à la question juive. Les actions menées en Europe orientale accélèrent l'évolution vers un génocide total. Le mouvement s'amplifie quand l'Allemagne, faute d'avoir arraché une victoire rapide en Union soviétique, dut renoncer à déporter les Juifs européens en Russie, où le génocide faisait déjà rage. Sous la prenante croissante entretenue durant des mois par les dirigeants nazis pour déclarer leur province libre de Juifs, il fallait trouver une autre destination à la solution finale de la question juive. Au début de 1942, se dessinait un programme de déportation massive vers des lieux de mise à mort en Pologne. La méthode adoptée alors privilégier les chambres à gaz mobiles et fixes aux exécutions collectives par balles. Des camions de gazage semblables à des camions de déménagement, mais transformés pour déverser le monoxyde de carbone dans le compartiment arrière, entrèrent en activité à Chemno, en Pologne occidentale, en décembre 1941, à cette date, ils avaient tué environ 150 000 Juifs. Et pendant mon enfance, j'ai entendu parler de ces camps de concentration. Il y avait des personnes autour de nous, en Moselle, qui disparaissaient jour après jour. On ne savait pas comment. On savait qu'ils étaient des Juifs. On savait qu'ils devaient disparaître. Mais on ne croyait pas qu'ils pouvaient disparaître définitivement. On ne les a jamais revus. Le désenchantement du monde de Max Weber est aussi une manière de dire que la foi mystique dans les rites sacramentels, le salut, la rédemption et le bonheur éternel après la mort, perdaient leurs attraits. Alors que la guerre et le génocide ravageaient l'Europe, la critique nietzschéenne de la raison et de la vérité et le désaveu d'une morale enracinée dans la foi religieuse sonnaient juste. Les églises ne pouvaient sortir de cette période sans tâche. Il ne faut toutefois pas exagérer ni anticiper la perte de la foi ni la baisse du nombre de fidèles des principales confessions chrétiennes. Après deux guerres mondiales, cette influence restait profonde. Malgré leurs difficultés, les églises sortirent remarquablement intactes de cette première moitié du siècle, de ce siècle catastrophique. Leur grand problème viendrait plus tard. Le début de la Première Guerre mondiale avait renforcé le christianisme. Dieu était de tous les camps, semblait-il, quand elle éclata. En tous les cas, dans chaque puissance belligérante, les églises se réclamaient de Dieu. Dieu est avec nous. Gott mit uns, immer, immer, Gott mit uns, disaient les Allemands. Dieu est de notre côté, clamaient les Français, tout en proclamant l'union sacrée pour la défense de la patrie. D'autres pays mêlèrent aussi rapidement patriotisme et christianisme. Le clergé envisageait volontiers la guerre comme une croisade nationale, une guerre sainte de la civilisation contre la barbarie, du bien contre le mal. Il y avait, certes, quelques pacifistes, mais la très grande majorité des ecclésiastiques soutenaient leur pays. Ils bénissaient les troupes qui partaient au combat et leurs armes. Ils priaient pour le succès d'attaques imminentes. Partout, le patriotisme se nourrissait des dogmes du christianisme. Le bellicisme de ces hommes de paix fut parfois tonitruant. En 1915, dans un sermon sur l'Avent, l'évêque anglican de Londres exhorta les soldats britanniques à tuer les bons comme les mauvais, les jeunes comme les vieux, même si le premier ministre estima qu'il s'agissait des divagations d'un évêque particulièrement idiot. Un chef d'église, au moins, afficha sa neutralité et encouragea les nations à conclure une paix juste. En 1917, le pape Benoît XV, élu en septembre 1914, proposa un plan de paix qui prônait un arbitrage international, l'évacuation des territoires occupés, le renoncement aux indemnités de guerre et la limitation de l'armement. Pour sa peine, on dénonça en lui un partisan occulte, un hypocrite qui ne voulait pas avouer ses préférences. Les Français le surnommèrent le pape des Boches et les Allemands le pape des Français. Pour le clergé, la guerre ouvrait la perspective d'une renaissance spirituelle appuyée par ce que les observateurs qualifièrent de retour aux autels. Cependant, la croyance en l'efficacité du spiritisme, supposée permettre aux vivants d'être en lien avec les morts, progressa avec le nombre de foyers en deuil. Dans cette époque de grande angoisse, il était logique que les gens se tournent vers la prière. Les soldats priaient souvent avant la bataille, et ceux qui survivaient rendaient grâce d'en être sortis indemnes. Religion et superstition se mélangeaient. Beaucoup emportaient au front des symboles religieux, une croix, un rosaire, une Bible de poche servait de talisman. Quand le pire survenait, les aumôniers militaires rappelaient aux camarades des soldats des symboles tirés du christianisme. La mort, considérée comme sacrifice, des croix de bois temporaires étaient plantées sur les tombes de ceux qui étaient morts. Certains se demandaient sans doute comment il est encore possible de croire après la bataille de Verdun et de la Somme. Il est difficile de savoir combien de soldats perdirent la foi au milieu du carnage.